Les cours du Collège de France.
Pour ce dernier exposé, je vais parler du revêtement caméral, la recherche du revêtement caméral dans le cas général. On ne l'a pas trouvé, mais on l'a trouvé dans beaucoup d'exemples. Je commence à rappeler un peu la situation. Donc, on a un groupe réductif. Sur un corps K, disons-moi, j'ai mis un clos de caractéristique 0, donc agissant sur un schéma affine M de type fini sur K, et puis aussi nécessaire, on ferait des hypothèses sur M. Et donc, on a ce diagramme, on a M avec la somme de G, et on a l'ouvert régulier, qui est un ouvert de Zariski consistant des orbites de dimension maximale. Donc, bien sûr, on a le quotient champêtre de M mod G. Donc, ici, on a le M rec mod G, un sous-champ ouvert de M mod G. Et ici, on a le quotient M mod G. Ça, c'est le quotient ensemble des invariants, donc c'est le spectre des fonctions invariantes sur M. Et ici, on a le quotient régulier. Donc ici, il faut les conditions de somme stabilisateur, soit plat, par exemple. Je vais passer là-dessus, je ne vais pas insister. Et de l'isomorphisme là. Donc ici, c'est une dimension ouverte. Et nous devons démontrer que sous l'hypothèse caractéristique 0, c'est morphisme universellement fermé. Donc, au moins, c'est surjectif. Donc, c'est la situation. Par construction, on a au-dessus de. De ce quotient régulier. Le centralisateur régulier, donc qui n'est qu'un groupe qui est défini à conjugaison intérieure près, mais lorsqu'il est commutatif, c'est vraiment un groupe. Donc supposons que c'est une hypothèse qu'on fait aujourd'hui, c'est un groupe commutatif. Donc, au lieu de travailler avec G sur M, on pourrait commencer à partir de ceci. Donc, dans le cas de la fonction Hitchin usuelle, dans le cas où G agit sur M, l'algèbre de Lie de G, ce morphisme-là est un isomorphisme. Et ce qui est vraiment utile pour décrire la fonction Hitchin, c'est que le centralisateur régulier peut être décrit d'une autre façon. Donc, on aimerait bien décrire le centralisateur régulier d'une autre façon. D'une façon abélienne, en quelque sorte. Non pas comme le stabilisateur d'une certaine action, mais comme une sorte de descente. Donc, grâce au revêtement caméral, une sorte qu'on doit définir. Donc, c'est pour ça qu'il est important, parce qu'on veut avoir un revêtement plat, à partir duquel on peut décrire le centralisateur régulier, aussi général que possible. Et à partir de là, si on veut reconstruire la situation invariante, il faut décrire la classe de l'algèbre aimerait que j'ai un sur aimerait quotient régulé mot G qui est lié par sa centralité régulière. Donc si on arrive à la, il faut arriver à décrire de façon abélienne pour qu'on ait une chance de décrire cette classe. Donc il est un élément de H2 de M rec mot G avec dans J. Et puis il faut décrire la classe du G torseur M rec au-dessus de M rec mot G. Donc qui sera un élément dans H1 de M rec mot G dans G. Donc une fois qu'on a, si on arrive une chance de, on arrive à calculer, à donner une expression à ces données, on arrive à partir de M rec mot G et son revêtement caméral, on pourrait reconstruire ce quotient champêtre et puis la partie régulière sans quotient. Et dans la plupart des cas, le complément de MREF dans M sera de codimension au moins 2, donc on retrouve à M. Donc on retrouve M, K souvent, M mod MREF est de codimension au moins 2, donc en utilisant le fait que M est affine. Donc c'est un peu le programme, en quelque sorte. Aujourd'hui, je vais parler un peu de ça. Donc là, il n'y a pas encore de travaux là-dessus, donc je ne vais pas dire grand-chose. Mais il faut quand même bien souligner que cette partie est certainement liée à une certaine partie du facteur de transfert de Langenstadt, parce qu'il s'agit de, à partir d'une polynôme caractéristique, d'identifier une classe de conjugaison dans le groupe. Donc ça, c'est peut-être pas tout le facteur de transfert, mais au moins une partie liée au facteur de transfert de Langenstadt. Au moins, il fournit un cadre pour définir, pour écrire, refaire le calcul de Langenstadt dans un cadre plus général. Voilà, donc aujourd'hui je vais parler de ce revêtement caméral. Donc je commence par revenir au cas adjoint, où et c'est particulièrement joli. Donc le revêtement caméral dans le cas où M est la jette de lit de G. Donc là, il y a une description très précise. Donc là, on a d'après le théorème de restriction de Chevalet. Enfin, d'abord, dans ce cas, on a bien le quotient régulier. Et la même chose que le quotient invariant, parce que il correspond biunivoque entre les orbites régulières et les orbites fermées. Ce morphisme, en tout cas, est un morphisme, c'est un isomorphisme. Et d'après la restriction de Chevalet, on a un isomorphisme entre le T, où T c'est le carton de. C'est l'algèbre de carton de G, sous l'algèbre de carton de G. Le T divisé par W, le morphisme naturel de T mod W à G mod G est un isomorphisme. Et par un autre terme de Chevalet, donc W agit sur T comme un groupe de réflexion. Donc le T mod W c'est un aspect vectoriel et le morphisme de T sur T mod W est un morphisme fini et plat. Qu'on va appeler pi. Donc, une fois qu'on a un morphisme fini et plat, on peut faire le restriction de Scalaire la veille. Donc on peut prendre notation, si on prend l'image directe, en tant que faisceau de T fois T, donc c'est le faisceau trivial de T, c'est le temps maximal, T capital, c'est le temps maximal. Donc le restriction à la veille, c'est un groupe, c'est un schéma en groupe. Un groupe lisse sur T mod W de dimension relative qui est égal à la dimension de T, donc fois le degré de ce morphisme fini et plat qui est donc le groupe de Weil, le cardinal du groupe de Weil. Et donc on va définir le J1 qui est le qui sont les points fixes de W. Donc W agit sur T et T de façon diagonale. Et donc ça sera sous l'hypothèse que le caractéristique de K le divise par W. Donc c'est 0 de toute façon, si on veut supposer. Alors ceci est un morphe, c'est un schéma en groupe. Liste de dimension relative, la même dimension que T. Donc il laissera un tore au-dessus du... sur l'ouvert complémentaire du discriminant. Mais sur le discriminant, c'est un schéma en groupe lisse, mais les fibres peuvent ne pas être connexes. Donc J1 est un tore au-dessus de T divisé par le discriminant, moins le discriminant. Au-dessus de discriminant, les fibres de J1 peuvent ne pas être connexes. Donc la non-connexité vient du fait qu'on apprend les invariants. Donc ça, c'est un groupe qui est à fibre connexe, mais quand on prend les invariants, c'est le plus connexe. Et donc, il est bon d'introduire le J0, qui sera donc le sous-schéma en groupe ouvert. Donc c'est un sous-schéma ouvert de J1, qui est en même temps un schéma en groupe, dont les fibres. Sont connexes. Donc, une telle chose existe, donc le morphisme est plat. Et ici, en fait, il est bon de penser que J0 sont des co-invariants. Donc, c'est aussi équivalent à dire que J0, c'est pi étonnant bas de T fois T co-invariants. Quand on prend les invariants, ça peut introduire des composants connexes, mais quand on prend co-invariants, les fibres sont connexes. Et ça, c'est un point de vue qui va être très utile quand on va trouver des applications sur la dualité. Quand je vais expliquer comme l'une des applications du revêtement caméral. Donc là, maintenant, je peux énoncer le théorème de... Donc, essentiellement, lieu de Navier-Gasse-Lurie. Mais je l'énonce, c'est d'une... Je l'énonce un peu différent. Donc, soit J, le centralisateur régulier, donc a priori il est défini sur Greg et puis il peut être descendu sur T sur W, la forme canonique. Alors il existe des immersions ouvertes canoniques qui sont aussi des homomorphismes de groupe. Qui va de J0 dans J1. Et en plus, on arrive à dire exactement ce que sont les co-noyaux avec le co-care et tel que le co-care de J dans J1. Et bien sûr, est supporté par le discriminant. Ça, c'est évident parce que sur le en dehors du discriminant, J0 et J1 sont c'est la même chose, c'est le même tore. Donc, quelque chose entre les deux doit être isomorphe. Mais comment on écrit ce co-care au-dessus du discriminant? Il faut que je rappelle un peu, donc il y a le morphisme de T sur T sur W. Et ici, c'est à l'intérieur, il y a le discriminant, qui est l'image de la réunion des hyperplans radiciels. Donc, donc ici X est dans le lieu discriminant et ici Y est dans l'un des hyperplans qui s'envoie sur X et on suppose que Y n'est pas dans un autre hyperplan, donc moins union de bêta différent de alpha de H bêta. Alors la fibre de Cocker de J dans J1 au-dessus de X. C'est toujours un groupe 0 Z sur 2 Z, mais le point, c'est qu'on arrive au-dessus de X. On a une jolie formule pour ceci, c'est le care, c'est le noyau de GM dans T et alpha check. Donc, comme on a une racine alpha, on prend la co-racine qui fait le homomorphisme de GM dans T, donc qui est injectif sur la jambe de Lie. Donc le noyau ne peut être que 0 ou Z ou 2Z, et bien c'est la même chose que le noyau. Et voilà. Donc vous voyez qu'en plus ce noyau est clairement une variance compatible avec W, donc ça ne dépend pas du choix de Y. Ça ne dépend pas du choix de Y. Et de même, le co-care de J0 dans J1 sur X, c'est le noyau de Gm de alpha dans T. Donc la différence ici, c'est ça sur le discriminant, ça revient au noyau de la coracine alpha tchèque. Alors ici, c'est le noyau de la racine alpha. Voilà. Donc, ça, c'est la difficulté ici, c'est de trouver un énoncé précis. Pour démonstration, c'est pas difficile. Démonstration, il faut ce morphisme est construit grâce à la résolution de Grothendieck, Springer. Ah, t'es tchèque. Merci. Alpha, c'est la coracine du groupe dual. Les chapeaux. Donc, on construit. Si vous regardez en utilisant le résolution de Grothendieck Springer, on arrive à construire ce morphisme, J vers J1. Et on peut démontrer si une dimension ouverte. Et donc, on a les deux morphismes. Et pour démontrer la partie un peu subtile sur le noyau, on trouve l'endroit où le groupe peut être réduit à SN2 ou PGN2. Donc là, il s'agit d'un calcul direct. On traite cas par cas quand est-ce qu'il y a N0, N0 sur 2Z. Et puis, on constate que c'est bien la formule que je donne. C'est vraiment constatation. Il n'y a pas une raison qu'on voit ici le groupe dual ici, mais c'est plutôt une vraiment constatation. Alors cette description a des conséquences assez remarquables. Par exemple, donc ça donne une description du. Ça donne une description de la partie régulière des fibres de Springer, des fibres de Springer et des fibres de Hitchin. Mais le plus remarquable, en fait, c'est le théorème de dualité qui est dû à l'origine de Donaghy et Pantef sur les non-complexes. Et il y a une démonstration de Chen et Zhu qui marche sur une caractéristique P. Donc, je vais expliquer, ça ressemble plus à la preuve de Chen et Zhu. Alors que la preuve de Nagy-Pentef, ça fait intervenir les toriennes, enfin, je n'y comprends pas grand-chose. En tout cas, c'est un énoncé qui a été d'abord un peu observé entre les lignes par Hitchin, qui était constituée par Tadus. Donc la fibre Hitchin, la fibration de Hitchin H de M G sur A et H de G, G dual. Supposons que G et G dual sont des fibres Hitchin pour les groupes semi-sam duo. Et G et G chapeau. Groupe semi-simple duo. Alors pour un A, un point dans A, un point très général. Alors on a le HG moins 1 de 1, c'est la même chose. Donc il y a un torseur près, mais un point de base près, mais c'est la même chose que le Picard, que je ne vais pas rappeler, de G de 1. Et AG chapeau moins 1 de 1, c'est le picard de G chapeau de 1. Et ces groupes-là sont vraiment duo. C'est un duo au sens de quartier. Ça fait qu'on a écrit PG de 1. On peut écrire PG de 1 comme un produit de un P1, donc c'est une variété abélienne. Où il y a un accouplement. Accouplement parfait à valeur dans BGM, le classifiant de GM. Et donc, si on décompose, bon, là il y a des choix à faire, mais si on décompose en une partie variété abélienne fois le groupe de composantes connexes et fois le groupe d'inertie qui dans ce cas est simplement le centre de G, et de l'autre côté on aura PG chapeau de 1. Donc ce sera une variété, une autre variété abélienne, fois pi 0 de P de G chapeau de 1, fois le centre de G chapeau. Alors cette dualité met en dualité, cet accouplement parfait, l'accouplement met en dualité. PG1 et PG chapeau de 1 sont deux variétés abéliennes duales. Donc c'est le home dans BGM. Et il met en dualité le pi0 de PG de A avec le, pardon, ici c'est un B, le classifiant du centre, et B centre de G chapeau, et pi0 de P, G chapeau de 1 et B centre de G. Et voilà. Et souvent on met accent sur ce morceau de partie abélienne, mais en fait ça marche parfaitement bien aussi sur le composant connexe. Ici ça correspond au le duane et le oui.
La première question, c'est quand même pourquoi les A sont les mêmes.
Ici, oui, il faut choisir une. Oui. Donc là, le choix dépend en scalaire, mais tout est GM, GM équivariant. Donc le. Voilà. En quelque sorte, c'est pas la preuve la plus optimale, mais ça implique aussi que le. Ici c'est la même chose que pi0 de Bunge. Donc ça implique que pi0 de Bunge c'est le duane au centre de G chapeau. C'est dans une preuve vraiment compliquée de ce fait simple que le groupe, l'ensemble de composantes connexes de l'espace module des fibrés, de G fibrés, c'est le duane du centre de groupe G chapeau. Mais par une preuve par abélianisation en quelque sorte.
Il y a un point carré naturel sur la G sur le produit fibré. Parce qu'il y a tous ces problèmes de section.
Mais il y en a comment parfait ici. Ah, ici, je.
Non, mais sur la G, il faut la G chapeau. Le truc naturel.
Je ne sais pas. Ouais. Enfin, en dehors de ce lieu, de ce lieu où tout passe bien.
Oui, mais même sur ce lieu, est-ce qu'il y a une façon de construire ?
Non. Enfin, je ne connais pas. Même cet accouplement n'est pas aussi naturel qu'on pense, en fait, comme je l'ai expliqué. Mais ça marche. Comment dire ? Dans le cas GNLN, nous, c'est des picards. Donc là, c'est l'accouplement. On peut utiliser l'accouplement d'hygiène de veille. Entre deux, il y a deux fibrés sur la même droite. Et en même droite, on peut en faire un vecteur en dimension 1. Mais je ne crois pas qu'on peut l'utiliser directement pour ça. Il faut faire des choix. Mais je vais expliquer à peu près la preuve. Et ça utilise quand même cela. Il y a un complément de ce théorème ici que j'aurais dû continuer ici, c'est lorsque G est adjointe, donc la continuation de Bonnary-Guesgori. C'est lorsque G est adjointe, alors J0 et J. Et lorsque G est simplement connexe, il est de l'autre côté. Donc J0 et J. Et lorsque R joint J est ici, et lorsque simplement J est ici. Et puis, vous voyez, parce que la description aussi est parfaitement symétrique, quand vous passez de cette somme duale. Ça permet de se ramener au cas simplement connexe. Donc ça permet de se ramener au cas où G est adjointe et G chapeau simplement connexe. Parce que la raison, parfois ça fait des défauts. Mais les défauts sont les mêmes de côté. Donc, ça, si vous mettez tout exact,
ça veut dire que les groupes P sont en dualité ou pas?
Les groupes P sont en dualité, oui.
Ouais, c'est ça que tu dis.
Oui,
oui. C'est plus clair que sur les fils.
Oui, les groupes P en sont en dualité, mais ce que je veux dire, que même les groupes P, la dualité. Si je peux me tromper, mais quand je fais des calculs, il faut des choix un peu. Pas terribles. Mais peut-être parce que je me trompe. Donc, en tout cas, ici, donc ça, c'est vraiment l'avantage de cette description qui échange un phi check. Ça se ramène au cas où J est un J0 et l'autre côté, c'est un J1. Et donc, maintenant, si on met dans ce cas-là, vous voyez, le A est dans ce magnifique ouvert. Mais je peux prendre définition, c'est lorsque. Vous voyez qu'on a A qui est morphique de X vers T mod GM, T sur W mod GM, et on a T mod GM ici. Et donc, on a, ça c'est le revêtement caméral associé à ce A. Donc là c'est le revêtement caméral universel, on tire en arrière, on a ce revêtement fini et plat de X. Et on peut prendre comme définition, donc ça c'est si et seulement si, ce revêtement caméral est lisse sur le corps de base. Donc avec le terme type Bertini, avec A assez générique, parce que ça c'est lisse, donc Bertini nous dit que le A générique, ça va être lisse. Voilà, donc une fois qu'on est là, et c'est la même chose de deux côtés, donc on a le revêtement caméral de G et le caméral de G chapeau est la même chose. Et bon, ici, on va utiliser la courbe canonique. On a le picard de. Le champ de picard de. On a ce cet accoupement canonique. C'est l'accouplement de veille en quelque sorte, je crois que c'est plutôt de deux lignes. Donc là c'est parfaitement canonique, on a une formule pour cet accouplement. Mais en quelque sorte on veut dire que J0, c'est les co-invariants, et J1 c'est les invariants. Donc on va dire que du coup on a l'accouplement canonique. Entre les invariants et les co-invariants. Bon, théorie, mais en fait, ici, ce n'est pas des groupes, mais c'est des groupes pour 8. Donc là du coup, ici, j'arrive pas, parce que j'y suis idiot, mais j'arrive pas à le faire aussi canonique que je veux. Il faut faire des choix pour le faire. Mais peut-être il y a peut-être une façon de plus jolie de faire marcher cet argument. Mais je pense que c'est ça l'essentiel. Donc on a l'accouplement de l'inveille sur le picard du coupon caméral. Et d'un côté on prend les co-invariants, de l'autre côté les invariants. Donc si on les prend raisonnablement, ils sont en accouplement parfait. Parfait. Et donc, pour ça, on peut parfaitement vérifier sur les termes. Donc, tout ça se passe très bien. Dans l'inscription des points, on le choisit à un point. Quand on choisit un point sur mon caméra, on peut écrire tout explicitement comment ça marche. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est une preuve qui n'est pas exactement les preuves dans la littérature, mais je pense que c'est plus compréhensible de ces façons que dans le Bonegues Gori Uchenzu. Voilà, donc, c'est quand même un fait assez remarquable que l'existence de rêvement caméral et puis des secondes très précises du centre régulier à partir de ce revêtement caméral nous donne beaucoup d'informations, de dualité. Et quand on sait que le terme de dualité, en fait, in fine, est extrêmement important par les arguments de l'intégration périodique, on peut démontrer la fondamentale sans les faisceaux pervers, juste en ayant cette dualité. Donc cette dualité, je pense que c'est vraiment important. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'aimerais bien avoir un revêtement caméral dans d'autres situations. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait ça marche dans tous les exemples que je connais, sans que je puisse démontrer quoi que ce soit. Je n'ai pas d'argument général. Donc on passe en revue des cas. Donc il y a le cas multiplicatif est relativement évident. Donc ici, G, c'est un groupe sans fondement connexe. Et puis, comme on avait notation avec G+, c'est G fois T divisé par le centre, qui est soit dans, qui est une dimension ouverte dans l'enveloppe de Weinberg. Et dans ce cas, on a V divisé par G, indissant par conjugaison et de la forme un espace affine de dimension R qui est égal au rang de groupe et fois T sur W, donc qui est aussi un espace affine. Donc dans ce cas-là, il est clair que le revêtement caméral voilà. Dans ce cas-là, ça ne pose pas de problème. Il y a les cas où le cas de l'espace symétrique. Donc il y a G avec une évolution θ. Et on décompose la règle de Lie en en K plus P, où K c'est la partie de valeur pro plus 1 et P moins 1. Et puis on a un K, le sous-groupe des points fixes, où P est le composant neutre de cela, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et puis on regarde l'axiome de K sur P. Mais on voit bien que P sur K, comme un champ, c'est la même chose que G, que le cotangent de G sur K sur K, sur G. Et dans ce cas de cotangent, il y a un théorème très général de Knopf. Donc ça marche très bien dans le cas du cotangent. Donc si X est une G-variété, si M c'est le cotangent de X, si on regarde le problème du théorème d'invariance sur le cotangent, c'est complètement résolu par Knopf. Donc on a le morphisme mu, l'application moment qui va de M dans G chapeau, dans G dual, donc on l'identifie avec G. Donc c'est l'application moment. Et on continue avec le quotient invariant ici, donc c'est G mode G, qui était mode W. Et on note A, la normalisation de l'image de M dans T W. Et si supposons que M est normal, ça va se factoriser par cette normalisation. Alors Knopf démontre que, donc ça c'est un énoncé très fort de Knopf, il démontre que ce A lui-même est un espace vectoriel, H, divisé par un groupe W. Donc W c'est un groupe de réflexion agissant sur une vectorienne H. Donc c'est parfaitement général. Et dans les cas d'espace symétrique, c'est le petit groupe de Weil. Voilà. Et il n'y a pas trop de doute que dans toutes ces situations, une fois comme là, ce revêtement caméran de H vers H de W, on devait pouvoir décrire le centre régulier grâce à ce revêtement. Donc, donc je rappelle le cadre général de. Donc, en quelque sorte, toutes les situations qui, plus ou moins, ont un trait à la formule des traces, ce problème n'est pas trop difficile. Mais en général, si on se donne le mauvais plaisir de regarder la situation du type Luna-Richardson, donc je rappelle que si G agit sur M, donc une variété affine peut être normale sur K, et on suppose que l'hypothèse de Luna-Richardson est satisfaite, qu'il existe une orbite qui est en même temps fermée et régulière, donc l'existence orbite fermée et régulière, d'après le théorème de Sly de Lunar, on a cet ouvert principal de M, donc l'ouvert principal où on a où pour tout X dans MPR, le stabilisateur GX appartient à une classe de conjugaison donnée, de sous productif. De G. Donc si on prend H, là on est un sous-groupe, on va prendre le si on prend F, le lieu de point fixe de M dans H. Dans les cas qui nous intéressent, H ou un tor. Donc le lieu de point fixe, si M est lisse, le point fixe sera aussi lisse. Donc ici, il va agir par le normalisateur de H dans G. Et donc si une hypothèse, une autre hypothèse d'irréductibilité, qui est souvent, c'est le cas, on a le morphisme de F divisé par ce H vers. Si tout a été réductible, alors là, ce morphisme est un isomorphisme. Donc ça, c'était un de Luna Richardson. Oui. Et dans cette situation, on voit aussi un candidat du revêtement caméral. C'est que on ne peut prendre N, F divisé par le centralisateur de G sur H vers le F divisé par le normalisateur de H. Donc ça, c'est un morphisme fini. Mais qui n'a aucune raison d'être plate. Alors le groupe de Weyl, en quelque sorte, ici, c'est le normalisateur de H divisé par le centralisateur de H. Mais il agit là-dessus, il n'y a pas de réflexion, il n'y a rien. Donc ça, c'est très général, mais ici, la platitude n'est pas donnée. Vous voyez que... Et puis là, on voit que le fait que notre recherche du revêtement caméral n'est peut-être pas... Bon, ce sera très utile pour traiter les questions de formule des traces, mais en général, on a vraiment un problème parce que le groupe W de Luna Richardson n'est pas la même chose que les groupes W de petits groupes de Weyl. Donc il y a des variances. Donc il y a des plus ou des moins qui ne sont pas exactement les mêmes. Donc il faut peut-être changer de groupe. Et quand c'est platitude, quand on change de groupe, ça ne marche pas exactement. Bon, je pense que je vais terminer par un exemple qui est particulièrement joli. Mais je pense qu'il est vraiment difficile à comprendre. L'exemple du dernier exemple, c'est l'exemple du schéma commutant. Donc on commence par le cas où G et G en laine. Et donc on a le schéma commutant ici, c'est deux variables, donc x, y. Dans GLN, entre x, y et 0. Donc c'est quand même c'est une bête assez méchante, donc c'est quand même pas toujours pas démontré que un truc aussi simple soit réduit, par exemple. Il y aura des gens qui ont cherché à démontrer, mais sans rien succès. Mais essentiellement dû à Procesi, Vaccarino. On sait que M est de Lune aussi. On sait que M mod G, c'est la même chose que T fois T divisé par W. Donc T, c'est la matrice diagonale dans GLN. Et donc ça, c'est un schéma normal qui n'est normal et pas régulier. Donc ça, c'est le... au moins dans ce cas-là, on sait calculer le quotient invariant du schéma combitant. Donc ça, c'est exact. Il n'y a pas de anipotent près, c'est vraiment complètement exact. Je crois qu'il n'y a même pas d'hypothèse caractéristique, ce qui est quand même assez fort. Mais et on a aussi le maintenant on a le M rect mod G, donc celui qui est lisse, qui s'envoie sur M mod G, qui est affine mais pas régulier. Et ça, c'est morphisme universellement fermé. Mais dans ce cas-là, il est vraiment. C'est celui qui est lisse, mais il est très difficile de décrire exactement ce que c'est. C'est pas comme on décrit, c'est exactement ce que c'est. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a, cet ouvert cyclique. Cyclique, c'est les x, y dans GNN, donc x, y. Commute et tel qu'il existe un V, un vecteur dans Kn, tel que qui est cyclique. Il existe un vecteur cyclique. Donc, si il y a un vecteur cyclique, le couple sera régulier. Mais l'inverse est faux. Il y a des vecteurs, il y a des couples réguliers, mais qui n'est pas cyclique. Par exemple, il peut être co-cyclique, mais sans être cyclique. Donc, en tout cas, c'est un ouvert. Et c'est un ouvert de M rec. Et lorsqu'on divise M cycle par G, eh bien, ça consiste simplement à fixer ce vecteur cyclique. Donc, ce sera X, Y et V dans GNLN fois GNLN fois KN, tel que V est un vecteur cyclique. Pour x et y, comme module de k x y. Donc kn en tant que k x y module est cyclique par rapport à ce vecteur v donné. Donc ici, c'est, le vecteur v n'est pas donné, en sorte de rigidification consistant en fait à fixer ce vecteur. Et donc dans ce cas-là, on voit bien que maintenant on a m cycle, donc ici c'est vraiment le schéma de Hilbert. De A2. Donc ici, on voit que c'est T fois T mod W. C'est le schéma de Chow. Des cycles dimension 0 de longueur N de A2. Et donc, on a un schéma très joli où, quand on restreint le morphisme du régulier vers le quotient invariant à cet ouvert, on retrouve le réseau de singularité de Hilbert-Chow. Donc, résolution. De singularité. Et on voit bien que c'est ici que on appelle ça HN, c'est un peu de CN. On ne peut pas définir le centralisateur régulier n'est pas défini sur le schéma de Chow. Il est vraiment défini là-dessus. Donc si on a YN vers HN, donc le schéma le morphisme topologique. Donc HN classifie les sous-schémas fermés de dimension 0 de longueur N dans le plan Et on le met ensemble, ça fait le morphisme de YN vers HN. Donc ça, c'est le morphisme plat de degré N. Et on sait que le centroïde régulier J, c'est la même chose que le restriction à la veille de groupe multiplicatif. Et dans ce cas-là, on a le revêtement spectral, mais qu'est-ce que c'est le revêtement caméral? Eh bien, on devrait trouver ce morphisme de Xn qui est en quelque sorte la clôture galoisienne de Yn. Donc Yn, c'est un morphisme fini et plat, donc génétiquement c'est un truc étal de Rn. On prend la clôture galoisienne et il faut qu'il s'étende, surtout Hn. Et, donc le théorème, ça c'est... Pardon?
Je peux rappeler la définition de
YN? Donc HN, c'est le schéma d'Hilbert. YN, c'est le truc tautologique. Donc, au-dessus d'un point, c'est justement le schéma dimension 0 qui est classifié par ce point. Oui, c'est universel. Donc, sur le lieu principal, en quelque sorte, donc HN principal, c'est là où PN, P est étal. Donc les N points sont disjointes. Donc là, c'est facile de voir ce que c'est XN. C'est une consiste en un ordre total sur les points dans la fibre de P. Et lorsqu'il y a deux points qui se coïncident, on peut définir ce que c'est ce Xn. Lorsque trois points coïncident, ça commence à compliquer, c'est pas comment définir. Et donc c'est ça le théorème qui est dû à Heyman. Son grand théorème, c'est que en fait ce Xn existe. Donc c'est revenons caméra dans notre langage. Et avec un axiome de groupe de W, et le J, c'est de nouveau, ce sera le pi étoile de Xn fois t de W.
C'est
le schéma d'Hilbert. La construction est a priori assez bizarre. Il prend un truc qui peut prendre une partie réduite et puis il montre que c'est plat. Il ne voit vraiment pas. Enfin, l'argument me dépasse pas mal. Mais en tout cas, ça donne quand même au moins un cas où l'existence n'est pas du tout évidente et correspond à un théorème assez profond de Heyman. Et donc, il y a des questions qui se posent. Donc, est-ce que ça marche pour l'autre groupe GLN? D'abord, ici, c'est sur le cyclique. Est-ce que ça s'étend sur la partie régulière? Donc là, il est vraisemblable qu'il s'étend. Mais il faut savoir ce que c'est cette partie régulière. Et ensuite, comment s'étendre à l'autre groupe? Donc la question de comment l'étendre de Heyman à l'autre groupe, dans notre, pour le schéma commutant, l'autre groupe. Et puis, sous quelle hypothèse, sur l'axiome de G sur M, comme dans un revêtement caméral de M vers sur G. On va là-dessus. Donc je termine là-dessus. Merci.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.